Bonjour à chacun et chacune. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7. J'ai donné à titre ce partage, cette réflexion ce soir, ce début de verset, au verset 8, ce début de verset qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que... » Complétez. « Que son commencement. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez me dire, mais Jérémy, tu prends des risques là. Tu nous demandes si on est d'accord ou pas avec la parole de Dieu. C'est quand même délicat. Hein? Personne n'osera dire non. En tout cas, pas ceux qui croient à la parole de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un puzzle est plus beau fini ou plutôt quand on le commence? Fini! On voit toutes les pièces, etc., qui sont rassemblées. Il veut dire quelque chose, il représente quelque chose, il y a une image, il y a un portrait, il y a quelque chose qui s'en défait. Mais vaut la finition de la construction d'une maison, ou bien simplement quand on commence les fondations? C'est quoi qui est mieux? Je crois que c'est quand on commence à mettre les pieds en éventail sur son canapé, et que tout est fini, on est bien installé, le chauffage est bien mis, etc. C'est pas vrai? C'est beaucoup plus confortable en tout cas. C'est beaucoup plus utile. Je peux vous dire, moi qui ai déménagé dernièrement, il y a quelques semaines, au début du déménagement, je n'avais pas encore installé les derniers chauffages, système de chauffage, et il a fait assez froid. Et quand vous rentrez dans une maison qui est très grande et qui n'a pas été chauffée depuis plusieurs mois, vous êtes bien content quand vous avez fini d'installer tous les chauffages. On pourrait multiplier les exemples. Pour une maman, il y a plus de joie à savoir qu'elle est enceinte ou à voir l'enfant sorti de son ventre. C'est quand le moment le plus joyeux, le plus beau? Elle dit « je sais pas, Kerry », parce qu'elle l'a pas vécu. Mais moi, je peux vous dire que la grossesse, ça peut être des très bons moments, c'est des très bons moments, on sent son ventre, on sent etc. Mais on angoisse parce qu'on se demande comment va se passer l'accouchement. Il y a des moments où les hormones travaillent, on est un peu triste, etc. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Pour attendre le troisième, je sais de quoi je parle. Et puis, ça travaille, ça se développe, il y a toutes sortes de choses. Et puis, on a mal, on est fatigué, etc. Blablabla. Et puis, un jour, il sort. Et on le voit enfin. Et même si on vient de passer un moment à accoucher, où c'est difficile, où on passe par toutes sortes d'émotions, de sentiments, de sensations, etc. À la fin, il y a l'enfant qui est là. À la fin, on voit quelque chose de conçu, d'accompli, de fini. Et à moins qu'il y ait un souci de santé, normalement, ça y est, la joie est là. On commence à découvrir la vie, on devient mère quand c'est pour la première fois. Il y a toutes sortes de nouvelles choses. Alors, ce n'est pas la fin des soucis. Bien sûr, petit enfant fait petite colère, grand enfant fait des grandes colères, etc. Petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci. Hein, Lucas? Mais... quand même, on remarque que cette parole est vraie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de personnes commencent des choses et ne les finissent jamais. C'est pas vrai? On voit plein de choses comme ça. Des gens qui commencent, qui ne finissent pas. Des gens qui promettent et qui ne font pas ce qu'ils ont dit, etc. etc. Et je me suis vraiment posé la question, Jérémy, est-ce que tu as des exemples de personnages dans la Bible qui... ont peut-être mal commencé mais bien fini, ou bien commencé et mal fini. Et j'ai réfléchi bien sûr, hein, et j'ai pensé à une femme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, qui a eu une vie misérable et qui a bien fini. Et j'ai pensé à un homme qui d'inconnu est devenu roi, mais a très mal fini. On va le lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez être qui? Celle qui a bien commencé et bien fini, c'est vrai? Bon, on est d'accord. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est que même si une vie a mal commencé, elle peut très bien finir. Elle peut très, très bien finir. Il y a de l'espoir, bien sûr. Prenez avec moi dans 1 Samuel, 1 Samuel maintenant, chapitre 10 et verset 20. Je ne connais pas vos cœurs, je ne connais pas vos vies, comme l'a dit Lucas, on ne connaît pas tout, on ne connaît rien d'ailleurs, presque rien sur vous peut-être, que ce que vous nous avez raconté, dit, ou peut-être ce qu'on a pu découvrir à force de se côtoyer. Mais Dieu sait tout. Et je ne sais pas pourquoi il a penché mon cœur sur ce message encore ce soir, mais je pense qu'il veut parler, encourager quelqu'un. 1 Samuel, chapitre 10, versets 20 à 24. On va parler de Saül. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, Saül est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Vive le roi. Vous avez vu Saül un petit peu? Il est inconnu. Personne ne le connaît. Juste apparemment, il est grand de taille. Il dépasse tout le monde d'une tête. Comme Jean-Son qui est au milieu de nous ce soir. Un homme très très grand. Un jeune homme, Saül. Mais très timide. Au point que quand on l'appelle, on le cherche, il n'est plus là. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et Dieu révèle qu'il s'est caché derrière les bagages. On va même le chercher, on l'amène. Et tout le monde, tout un peuple, des centaines de milliers de personnes qui disent « Vive le roi! Vive le roi !» On continue la lecture. Samuel chapitre 11, verset 14. « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. » 1 Samuel, chapitre 15, verset 10. Le temps passe, les années passent, et voilà ce qui se passe. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Chapitre 28, versets 7 et 8. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » On continue, chapitre 31 et verset 1. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée. » Et perce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne le voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Est-ce que ce n'est pas une histoire, un récit triste, puisque ce n'est pas qu'une histoire, c'est un vrai récit, quelque chose qui s'est vraiment passé. Est-ce que ce n'est pas triste? On voit un jeune homme qui d'un coup est choisi de Dieu pour devenir le roi d'un peuple immense, des centaines de milliers de personnes. Ils sont là, vive le roi, vive le roi. Cet homme, ce jeune homme, Saül, commence à vivre une gloire. Il est même guidé par Dieu pour délivrer ce peuple de ses ennemis qui sont là, qui l'assaillent, etc. Saül remporte des victoires, des grandes guerres. Sa royauté est confirmée, il y a de grandes réjouissances. Et puis dans sa vie, au bout d'un moment, Saül décide de désobéir à Dieu. Dieu donne des conseils, Saül prend des droits qu'il n'a pas. Même s'il est roi, il fallait quand même qu'il se soumette à Dieu. Et lui qui avait l'approbation de Dieu, lui qui avait... même la main de Dieu pour le guider et le garder, eh bien, il se retrouve à désobéir. Et puisqu'il désobéit, Dieu va dire, je le rejette comme roi. Cet homme va commencer à errer, on va voir plusieurs choses, mais il va commencer à changer de vie, il se détourne, il va plonger dans des choses mauvaises, il va même aller vers une personne qui évoque les morts. Et dans notre monde aujourd'hui, c'est pas grave ça. Les voyants, les guérisseurs, c'est rien du tout, c'est pas grave. Ils commencent à évoquer les morts. Dans notre monde, c'est courant, mais Dieu a dit quelque chose dans sa parole. Il a dit que tout ce qui est guérisseur, voyance, magicien, astrologue, etc., c'était des choses qui étaient en abomination à ses yeux. Ça attire sa colère, c'est un péché grave, c'est diabolique toutes ces choses. Encore il y a deux jours, je parlais avec une voisine et puis elle me disait, vous savez, elle a de l'électricité statique. Ça vous est déjà arrivé ? Vous prenez l'électricité partout, vous touchez le micro, aïe, c'est l'électricité, vous vous approchez près du robinet, paf, l'électricité, vous embrassez quelqu'un, tac, une décharge électrique. C'est très très désagréable, c'est pas vrai ? Et elle me dit, je vais aller voir un magnétiseur pour me faire enlever ça. J'ai dit, allez voir qui vous voulez sauf eux. N'allez pas voir un magnétiseur. Mais pourquoi ? Il dit, parce que c'est des choses qui attirent une malédiction sur vous. C'est des choses qui attirent la désapprobation de Dieu sur vos vies. Ah bon, et tout, mais comment ça et tout ? J'ai dit oui. Je dis, j'ai pas le temps de vous l'expliquer ce soir, si vous voulez, on prendra le temps. Je dis, mais n'allez pas voir ces personnes-là. Mais pourtant, c'est que pour enlever l'électricité, tout ça et tout. Je dis, mais vous inquiétez pas, enlevez votre pull en laine et vous verrez, vous aurez plus d'électricité. Faites attention aux habits que vous portez, vous verrez que vous aurez plus de problèmes. Mais s'il vous plaît, n'allez pas voir les magnétiseurs. Mais aujourd'hui, c'est courant. Aujourd'hui, ça suffit. Et cet homme, Saül, qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole, la loi de Dieu, puisque dans Deutéronome 18, verset 9, c'est décrit toutes ces choses, cet homme va commencer à aller invoquer vers ceux qui invoquent les morts, qui parlent aux morts. Il tombe bas. Et puis il va aller un peu plus loin, il va terminer sa vie comment ? Il va terminer sa vie en se suicidant. Je sais pas ce que vous en pensez. Lui qui a connu la gloire, lui qui a connu peut-être aussi l'approbation de Dieu surtout, il va finir par se suicider. Et puis on va voir une autre femme, une autre personne, c'est dans Luc. Prenez avec moi Luc chapitre 7. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger chez lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle le mouilla de ses larmes, puis l'essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que cette femme est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans la maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. On voit une autre personne. Elle a commencé sa vie d'une manière bien misérable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, au point que toute la ville sait que c'est une femme pécheresse. Il y a un religieux, ce pharisien, qui a invité Jésus chez lui, cet homme qui s'appelle Simon. Il commence à voir cette femme arriver chez lui et il commence à la juger dans son cœur. Il dit, ça c'est une femme pécheresse. Si Jésus était l'homme que je croyais qu'il était, s'il était véritablement prophète, s'il était vraiment envoyé de Dieu, il connaîtrait qui est cette femme et de quelle espèce cette femme est. Et Jésus, qui connaît dans le cœur, qui connaît les pensées des cœurs, il va lui expliquer que cette femme, elle a une attitude bien mieux, bien meilleure que la sienne, et qu'à cause de son attitude, à cause de son amour, elle va être pardonnée de ses péchés. Et cette femme, de sa situation, où elle a une réputation misérable dans toute la ville, à cause de son péché, qu'est-ce qu'elle a fait ? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a commis adultère ? Peut-être. Est-ce qu'elle a vécu d'une manière misérable, d'une autre façon? Est-ce qu'elle a péché d'une quelconque façon autre? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle est repartie de cette maison, pardonnée, avec la paix de Dieu et l'approbation de Dieu. Elle qui est venue avec une condamnation, une culpabilité, une honte, elle repart justifiée et pardonnée. Et moi, je préfère être cette femme plutôt que cet homme qu'on a vu tout à l'heure. Et je ne sais pas comment vous avez commencé votre vie. Je ne sais pas par quel souci vous venez de passer. Je ne sais pas par quelle épreuve vous êtes passé dernièrement. Qu'est-ce que vous avez traversé? Je ne connais même pas la situation de chacune de vos vies. Vous ne connaissez pas la situation de ma vie, même si je me tiens devant vous régulièrement. Le cœur, c'est Dieu qui le connaît, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Mais ce que je sais, c'est que Dieu peut changer une situation misérable en situation bénie. Peut changer un cœur qui ploie sous la culpabilité en cœur heureux et paisible parce qu'il se sait pardonné de Dieu et de Jésus. Il peut trouver quelqu'un qui a échoué dans la vie, qui a tout perdu et repartir à zéro comme on a chanté en premier chant. Quelqu'un qui repart à zéro avec le Seigneur Jésus. Et peu importe si vous avez bien commencé puis tombé, vous pouvez encore vous relever. Parce qu'autant de fois qu'on tombe, Jésus, Dieu nous relève. Autant de fois qu'on pêche, Jésus est prêt à pardonner. Il est dit dans la parole que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu est vivant, Dieu est amour et il nous relève si on se tourne vers lui. Et l'important, c'est pas comment on a commencé, l'important, c'est même pas le parcours en soi, c'est de bien finir. C'est de bien finir sa vie. Et si ce soir était le dernier jour de notre vie, comment est-ce qu'on le finirait ? Face à Dieu, qui nous tend les bras, qui nous tend les mains, qui nous dit « Je t'aime, mon enfant, fais la paix avec moi, reviens à moi. Renouons une amitié, renouons une relation entre nous, ensemble. Allons ensemble à nouveau sur le chemin de ta vie. Viens avec moi, suis-moi, comme Jésus pourrait le dire. » J'ai remarqué trois choses qui différencient ces deux personnes. La première chose porte se tient dans un verbe, le verbe « humilité ». Je m'humilie, s'humilier. Pas se rabaisser, mais avoir de l'humilité, être humble. Être humble. Samuel, chapitre 15, verset 14, je vous le lis. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Samuel répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. L'humilité au point d'être vrai. Saül, quand on a mis en évidence son péché, il avait désobéi à Dieu, Dieu lui avait demandé de faire quelque chose, il a fait autre chose, il a fait autrement. Il a voulu cacher son péché. Il a voulu même justifier, il a dit, mais c'est simplement les autres qui m'ont dit de faire ça, c'est pas ma faute. Il a voulu se justifier, il a même menti, il a dit qu'il y était pour rien. Quelqu'un d'humble, quelqu'un qui est humble devant Dieu, c'est quelqu'un qui est vrai devant Dieu. Et Dieu nous demande d'être vrai. Un autre texte, dans le verset 10 et 12, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, on l'a lu, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel, quand Dieu lui dit j'ai rejeté Saül comme roi, il va prendre des nouvelles, quelqu'un va lui dire Saül est allé à tel endroit à Carmel s'ériger un monument. Saül s'est pris d'orgueil, lui qui a commencé tout honteux, tout timide en tout cas, qui se cachait dans les bagages, il en est arrivé à se faire un monument pour lui. On a appris, il y a quelques années, qu'un homme avait pour désir, une star avait pour désir, de remplacer la statue de la liberté par une statue qui lui ressemblait, à son image. Plusieurs personnes se sont fait des statues à leur image, qui leur ressemblaient, parce qu'ils voulaient marquer l'histoire, ils voulaient marquer la terre. Est-ce là ce qu'on veut ? S'élever soi-même, sa propre gloire, sa propre réussite? Ou est-ce qu'on comprend, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur, est-ce qu'on veut la gloire de Dieu, sa gloire à lui? Il n'a pas eu l'humilité. En comparaison avec cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est baissée devant Jésus. Elle a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus. Elle a commencé à laver les pieds de Jésus, pleurer, essuyer avec ses cheveux et répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Elle s'est rabaissée devant Jésus. Elle s'est humiliée. Et je crois que c'est une des clés qui a fait qu'elle a été pardonnée et qu'elle a été justifiée. Cette femme n'a pas cherché à se justifier quant à son péché. C'était tellement évident, elle n'a rien dit. Elle n'a même pas parlé de son péché. On ne sait même pas qu'elle ait dit un mot. Dans toute cette affaire, tout ce qu'elle a fait, c'est s'humilier devant Dieu. Elle n'a pas menti, elle ne s'est pas justifiée quant à son erreur. Puis la troisième chose que je remarque, c'est que Saül, il a fait beaucoup de sacrifices. Dans toute l'histoire, si on lisait tous les livres de Samuel, on remarquerait que Saül a fait beaucoup de sacrifices, il a beaucoup servi Dieu. Il a servi Dieu, soi-disant, fait beaucoup d'offrandes à Dieu. Mais tout ça, c'était pour son propre intérêt. Tout ça, c'était pour sa propre réussite. J'ai relevé encore un texte, au verset 30 du chapitre 15. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Saül, alors qu'il se voit découvert, alors que son péché est évident, alors que Dieu le rejette, alors que le prophète vient lui dire, Saül va encore aller plus loin. Il va avoir tellement d'orgueil qu'il va résister, il va dire, mais bon d'accord, j'ai péché, ok, ça c'est fait, maintenant viens avec moi et honore-moi devant tout le peuple. Lui qui se sait rejeté, il dit encore une dernière chose, viens et honore-moi. Cet homme veut tout l'honneur pour lui, veut la gloire pour lui, il ne veut pas perdre la face. Regardez où ça l'a mené. Il a plongé dans l'occultisme, des choses diaboliques. Il en est venu même à se suicider. Alors que l'autre femme, cette femme pécheresse, elle est venue, elle a aussi servi Jésus. Pourquoi je dis qu'elle a servi Jésus? Parce qu'elle s'est mise à la place du serviteur. Celui ou celle, celui qui lavait les pieds des gens qui venaient dans une maison, c'était le serviteur. Il se mettait à la place, il se mettait à genoux et il commençait à laver dans une bassine les pieds de l'autre qui était invité dans la maison. Et elle s'est mise à la place du serviteur. Et Jésus dit qu'elle n'a pas fait ça pour mériter le pardon. Il dit qu'elle a fait ça parce qu'elle a beaucoup aimé celui qui lui pardonnait. Elle savait que Jésus lui pardonnerait. Elle avait la foi, cette foi qu'on a dit qu'il fallait dans le dernier chant. Elle avait confiance en Jésus. Elle savait que si elle venait en s'humiliant, si elle venait aux pieds de Jésus, malgré le fait qu'il savait que c'était une femme pécheresse, il serait tout lui pardonné. Et elle a commencé à le servir, lui laver les pieds. Et personne ne lui a donné une bassine, elle n'avait pas de moyens pour servir Dieu. Peut-être qu'on se demande, mais comment je peux plaire à Dieu? Comment je peux servir Dieu? Aime Jésus. Ça suffit. Comment plaire à Dieu? Aime Jésus. Elle s'est mise à servir avec amour. Elle s'est mise à servir avec amour, elle a aimé le Seigneur Jésus, elle s'est mise à genoux, et je vois cette femme, j'imagine cette femme en plein repas, qui rentre. Vous l'avez déjà imaginé en lisant ce texte? Elle rentre dans la maison. Elle se met aux pieds de Jésus devant tout le monde. Elle n'a pas honte. Devant tout le monde, elle va se mettre sur ses genoux, elle va commencer à pleurer. Aux pieds de Jésus, saisir les pieds de Jésus, à pleurer sur les pieds de Jésus. Pleurer, baigner ses pieds de ses larmes à elle. Elle prend ses cheveux parce qu'on ne lui a pas donné de linge pour essuyer ses larmes, pour sécher les pieds de l'autre qui était invité. Elle va prendre ses cheveux, elle va essuyer. Et comme on le faisait pour honorer quelqu'un, elle va prendre un parfum et elle va le répandre sur les pieds de Jésus. En signe d'honneur, en signe d'affection, en signe d'amour. Et plus haut, on l'a lu, il est écrit que c'est un parfum d'albâtre. C'est un parfum qu'on mettait dans un vase précieux. C'est un parfum qu'on conservait qui avait une très, très, très grande valeur. C'est un parfum que les jeunes filles gardaient jusqu'au moment où elles allaient pour se fiancer, elles vendaient pour avoir l'argent nécessaire pour pouvoir commencer à vivre dans le mariage, son foyer. Et les filles, c'était la coutume autrefois, il fallait qu'elle ait une certaine somme d'argent pour pouvoir se fiancer, pour bien commencer. Et pour avoir cette somme d'argent, elles avaient un parfum, ce parfum d'albâtre, qu'elles gardaient dans un vase précieux, et elles le vendaient, ça coûtait très cher, pour pouvoir avoir l'argent et commencer dans la vie. Et cette femme, par amour pour Jésus, même ce parfum, elle le prend. Ce vase était des vases, c'était des vases qui étaient conservés. Ce n'était pas avec un couvert qu'on soulevait, qu'on pouvait soulever. Il fallait casser le vase pour pouvoir répandre le parfum ou se servir du parfum. Et elle a pris, elle a ouvert ce vase, elle a cassé. Elle ne pouvait pas le refermer, dire il y en a un peu moins, mais je le récupère après. Elle a cassé ce vase, elle a ouvert, elle a répandu sur des pieds de Jésus. En signe d'affection, en signe d'amour pour lui. Vous allez me dire, mais comment aimer Jésus? Comment aimer Jésus? C'est pas possible, moi je le connais pas. Qui c'est celui-là? Pour aimer Jésus, il faut savoir ce qu'il a fait pour toi. Et Jésus, il s'est donné pour nous. Jésus s'est offert pour nous. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. À cause de notre péché, et on est tous pécheurs, le ciel nous était fermé. Personne ne mérite le ciel. Personne ne peut aller au paradis, comme on en parle si souvent. Parce que le péché nous prive de l'accès au ciel. Cet endroit où tout est parfait, tout est beau, tout est pur. Nous qui sommes souillés, on ne peut pas y rentrer. Alors, Dieu a envoyé son fils Jésus sur la terre. Jésus a donné sa vie, il a été crucifié, cloué sur le bois de la croix. Il a porté le poids de tous nos péchés. Il a été meurtri, battu, craché, humilié, moqué. Et j'en passe. Parce qu'il voulait nous sauver. Le salaire, les conséquences de notre péché, c'est lui qui les a portées sur le bois de la croix, pour qu'on puisse, nous, être pardonnés et avoir la vie éternelle. Ça paraît simple, ça paraît trop simple peut-être, mais c'est le message de l'Évangile. Et si j'en parle pas en criant, c'est parce que les décibels ne servent à rien. Si j'en parle pas en cherchant à l'embellir, c'est parce que la parole de Dieu suffit. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus, et Jésus est mort sur la croix, en portant nos péchés, pour que nous n'ayons pas à porter les conséquences de notre péché. Comment aimer Jésus? Eh bien, savoir qu'il est venu sur la terre uniquement pour te sauver, pour me sauver. Il n'est pas venu passer des vacances, il n'est pas venu découvrir Hawaï ou d'autres endroits beaux sur la terre, hein? Il est venu simplement pour souffrir, pour mourir, et pour te sauver. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que puisque lui n'avait jamais péché, il est ressuscité, et il est vivant pour pardonner encore celui qui vient à ses pieds, pleurant, s'humiliant, vrai dans son cœur, et prêt à le servir par amour. Beaucoup de personnes s'enferment dans une religion. Ils croient que pour mériter l'approbation de Dieu, il faut faire, mériter. Faire toutes sortes d'efforts, donner de l'argent, etc. La Bible nous dit que c'est simplement en aimant Jésus qu'on est sauvé. En croyant en lui, croyant en son œuvre, en demandant pardon pour ses péchés, s'humiliant, en étant vrai, en confessant nos péchés, qu'on parvient au salut. Et en disant, Seigneur Jésus, je t'aime, que puis-je faire pour toi? Toi qui as tout fait pour moi. C'est aussi simple que ça. Et je veux qu'on revienne au début. Peu importe comment on a commencé notre vie, qu'elle a été pleine de réjouissances, pleine de victoires, pleine de belles expériences, l'important c'est pas comment on commence sa vie. L'important c'est comment on la finit. Et puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on finira sa vie, autant se préparer aujourd'hui. C'est pas vrai? Comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, autant être en règle avec Dieu aujourd'hui. Puisqu'on ne sait pas quand notre vie va s'arrêter, autant se préparer dès maintenant. Et dire, Seigneur, je veux pas tarder avant de m'humilier devant toi. Je veux pas tarder avant d'être vrai devant toi, de confesser mes péchés devant toi. Je veux pas tarder avant simplement de t'aimer. De t'aimer parce que tu m'as, toi, d'abord tant aimé, au point de donner ta vie pour moi. Je lisais un livre ce matin, je le commençais, un livre qui disait « Comment être chrétien sans être religieux ?» Ça paraît paradoxal pour certains, parce que pour certains on ne peut être sauvé, on ne peut être chrétien que quand on a une religion. Et être chrétien, c'est une religion. La religion pousse tous les hommes à mériter l'approbation de Dieu, à atteindre Dieu. Mais l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la vraie chrétienté, le vrai chrétien, c'est celui qui a compris que Dieu n'a pas attendu qu'on vienne à lui, c'était impossible, on ne le méritait pas, on ne pouvait pas. Mais c'est lui-même qui est venu vers nous, au travers de Jésus, en la personne de Jésus. C'est ça, l'évangile. Dieu voyant notre incapacité à nous purifier, il est venu nous laver de tout péché par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Il est venu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Quelles conséquences ça a dans notre vie de croire en Jésus, de l'aimer, de vivre pour lui et surtout lui en nous? Quelles conséquences ça a? Eh bien, on peut vivre la parole de Dieu. Je connais un pasteur, il n'y a pas très longtemps, puisqu'il a voulu être vrai, puisqu'il a voulu être droit avec quelqu'un, il lui a dit des choses en face, Cette personne s'est énervée. Cette personne l'a menacée. Cette personne lui a dit, je vais te tuer. Cette personne a dit à ce pasteur, tu vas voir, je vais venir, je vais te tabasser. La prochaine réunion qu'il y aura, tu verras. Je vais tout casser, je vais hurler, je vais venir tout casser. Et ce pasteur a prié de tout son cœur, il a demandé au Seigneur, puisque ma vie est dans tes mains, garde-moi tout simplement, garde-moi, et tu bénis cette personne, tu bénis cette personne. Puis il y a eu un jeûne et prière, et au jeûne et prière, cette personne qui avait menacé est venue, elle est arrivée, et le pasteur a eu peur, parce qu'il s'est dit, est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit? Et pendant jeûne et prière, pendant ce moment-là, le pasteur a commencé à prier dans son cœur. Il a dit, Seigneur, tu connais toutes choses, conduis, s'il te plaît, de la haine qu'il y a dans ce cœur, tu mets la paix, s'il te plaît, enlève la haine. Vous savez ce qu'a fait cette personne qui avait de la haine? Pendant le jeûne et prière, elle s'est levée, elle est allée voir le pasteur. Elle lui a dit, prie pour moi. Prie pour moi. Ils ont prié ensemble. Et le Seigneur a touché le cœur. Cette personne qui avait de la haine a commencé à avoir de l'amour et à dire pardon, pardon pour tout ce que je t'ai dit. Pardon pour la haine que j'ai eue envers toi. Pardon pour l'amertume. Ce pasteur, c'est moi. Et le jeûne et prière, c'était ce midi. Et la personne qui avait de la haine, elle est partie. Chez le fleuriste, elle a acheté des fleurs au pasteur. En demandant pardon sur un mot. Et je peux vous dire que quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit toujours. L'évangile, c'est pas une belle histoire. L'évangile, c'est pas une invention. L'évangile, c'est un mode de vie. L'évangile, c'est une conviction, c'est une paix, c'est quelque chose de réel, de concret dans la vie. Un jour, je disais, Seigneur, tu m'as béni, j'ai tout. Tu m'as comblé de tous mes biens, de tout ce qu'il me fallait, je manque de rien. Et puis, le midi, il y avait quelqu'un qui me dit, tiens, le lait de la banque alimentaire, il va bientôt périmer, est-ce que tu veux pas le prendre avant qu'il se périme? Puis je l'ai pris avec moi, puis je disais, Seigneur, tu vois, ce lait, je l'ai et j'en ai même pas besoin. Merci Seigneur pour ce lait, merci parce que tu me donnes tout. Et puis en rentrant chez moi, avant d'entrer, d'ouvrir la porte, je réfléchis et je dis, et j'ai imaginé ma femme en train de dire, merci Seigneur pour ce lait, oh merci Seigneur pour ce lait, je dis, tu vois, on manque même pas de lait, merci, merci, c'est vrai. Et puis j'entre et je dis à mon épouse, tiens, on m'a donné du lait, plusieurs briques de lait pour... Elle me dit, oh, merci Seigneur pour le lait, merci Seigneur pour le lait. Je dis, ah bon, mais pourquoi on manque pas d'argent, on n'a rien. Elle dit, j'ai pas eu le temps de faire les courses, demain matin les enfants, ils auraient pas eu de lait. Même dans les plus petits détails, le Seigneur pourvoit, il est fidèle. J'étais petit, j'avais mon chien, on me l'a volé. Je la raconte tout le temps celle-là. On m'a volé mon chien. J'étais petit, j'avais 9 ans. On habitait à Béziers, dans un tour HLM. Et puis, mes parents qui m'ont toujours éduqué dans la foi, ils m'ont dit, fais confiance au Seigneur, Jésus. Fais confiance au Seigneur, Jérémie, pardon. Jésus est vivant, Jésus est bon, il entend nos prières, etc. Puis je grandis, puis un jour, on me vole mon chien. J'étais sorti dehors pour le promener. Quelqu'un vient en voiture Mercedes, et il vient, il ouvre la porte, il vient, il me pousse et il me dit, c'est mon chien. Comment ça? C'est mon chien? Non, c'est mon chien, il part avec. Je retiens la plaque d'immatriculation. Les semaines passent. Pas de nouvelles du chien. Les gens sont partis avec le chien. Je pars en vacances et puis finalement, pendant que je pars en vacances, le voisin du dessous qui est gendarme a retrouvé la piste à cause de la plaque d'immatriculation. Il est allé chez ces gens qui avaient volé mon chien. Ils lui ont dit, si vous ramenez pas le chien dans une semaine, vous allez en prison. C'était des trafiquants de drogue. Et puis, ces gens ont tellement eu peur qu'ils ont ramené le chien. Et quand je suis rentré de vacances, j'ai retrouvé mon chien. Et moi, pendant toutes ces semaines, ces 3 semaines ou un mois, je sais plus, je faisais que prier Jésus. Le matin, le midi, le soir, entre les deux, je faisais que prier, Seigneur, rends-moi mon chien, rends-moi mon chien. Puis j'entendais des témoignages comme quoi Jésus répondait aux prières. Et moi, j'ai dit, il va me rendre mon chien. Et le Seigneur m'a rendu mon chien. Un jour, ma mère avait une verrue plantaire. Vous savez ce que c'est une verrue plantaire? Une verrue à la plante des pieds. J'étais petit aussi. Et puis, maman souffrait, elle pouvait presque plus marcher, elle faisait que boiter. Et à table, on remercie le Seigneur, comme Jésus le faisait devant un repas, il rendait grâce. On commence à remercier le Seigneur, puis c'est ma petite sœur qui prie. Et elle prie, Seigneur, merci pour ce repas, etc. Et puis à la fin de la prière, alors qu'on va tous pour enfin manger, elle fait, ah, j'ai oublié de prier pour maman, pour son pied. D'accord, ok. Allez, on se remet à prier. Et puis elle dit, Seigneur, tu bénis maman, tu bénis son pied, etc. On commence à manger, puis maman va chercher quelque chose dans la cuisine. Et d'un coup, on entend, je suis guéri, je suis guéri, j'ai plus mal au pied, j'ai plus mal au pied. Et puis, etc. Et elle réalise, et elle revient en tapant du pied comme ça, j'ai plus mal, j'ai plus mal, j'ai plus mal. Dieu avait guéri d'une verrue plantaire. Vous allez me dire que ce n'était pas un cancer, oui, mais même dans les petits détails, Dieu est fidèle et Dieu est bon. Gabriel, pareil, un peu plus tard, ma sœur, elle avait des boutons sur la langue. Vous allez me dire que ce n'est pas grave, des boutons sur la langue. Ouais, mais elle était petite et elle croyait en Jésus. Et elle a commencé à prier dans la prière du midi, toujours. On croit que c'est anodin, prier le midi, on mange, nous, on ne fait pas gaffe. Mais le Seigneur, il respecte et il honore notre foi, notre respect qu'on a pour lui. Et elle commence à prier, Seigneur Jésus, guéris ma langue, enlève-moi mes boutons. Enlève-moi mes boutons, s'il te plaît. Et elle commence à manger, puis un moment, quand elle mange, elle ne sent plus ses boutons. On la voit se lever, elle va voir dans une vitre, dans un miroir, elle, ah, et elle ne voit plus de boutons. Elle avait été guérie. Gloire à Dieu. Et puis toutes sortes de choses comme ça, que je pourrais raconter, parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et je ne dis pas des témoignages qui frappent au regard, je dis que des choses peut-être anodines, qui paraissent petites à nos yeux, mais parce que je n'ai pas envie d'en mettre plein la vue. J'ai envie simplement de parler de la vie de tous les jours avec Dieu. C'est une vie agréable. C'est une vie de paix. Une vie peut-être avec des moments plus difficiles. Des moments d'épreuve, c'est vrai, puisque Dieu n'a pas dit qu'il n'y aurait plus d'épreuves. Mais un moment où même dans les épreuves, le Seigneur Jésus est avec nous. Et c'est cette vie que Dieu propose. Et comment on fait? Il suffit de s'humilier devant Dieu. De reconnaître notre état de pécheur. Notre incapacité à se sauver soi-même. Et de dire, Seigneur Jésus, puisque tu m'as aimé, que tu veux être mon sauveur, je t'aime en retour, sois mon sauveur et sois mon maître, sois mon Seigneur. Gloire à toi. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci parce que ta parole est pleine, pleine de tes conseils, pleine d'expériences que des hommes, des femmes ont vécues pour notre enseignement, pour notre instruction. Tu aurais pu rajouter toutes sortes de miracles, des milliards de miracles que tu as faits, mais tu en as choisi quelques-uns, ceux qui étaient utiles pour que notre foi soit établie sur toi et non sur nos capacités, nos forces, pour que nous cherchions ta gloire et non notre progression, notre gloire à nous en tout cas, notre prospérité. Qu'on cherche l'intérêt des autres, ton intérêt à toi aussi, avant de chercher le nôtre, Seigneur. Nous voulons être des simples enfants qui acceptent ta parole telle que tu nous la présentes, sans artifice, sans amélioration soi-disant, mais telle qu'elle est. Tu connais nos cœurs à tous, tu sais de ce dont on a besoin. Tu sais quel est notre besoin pour croire en toi, et tu as déjà tout donné. Et je crois qu'au-delà de mes faiblesses, au-delà peut-être de ma manière de parler, ton esprit peut agir et convaincre les cœurs. Et je te demande vraiment d'encourager tous ceux qui ont besoin de toi ce soir, qui sont rentrés découragés, qui se sont demandé si ça valait la peine de persévérer, qu'on puisse se souvenir que le commencement c'est bien, mais vaut mieux encore la fin. La fin vaut mieux que le commencement. Et que puisque tu reviens bientôt, puisque notre vie est courte aussi, nous voulons nous préparer dès aujourd'hui à ta rencontre. Nous réalisons qu'il y a toutes sortes de bénéfices, il n'y a que du bénéfice à croire en toi et à s'attacher à toi. Qu'il n'y a que du bénéfice, Seigneur, à s'humilier devant toi. Puisque quand quelqu'un s'abaisse devant toi, tu le relèves, tu fais de lui ton enfant, un prince, une princesse du roi des rois, un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour cette position que tu nous donnes lorsque notre foi, notre confiance est placée en toi. Fais que cette assemblée soit remplie d'hommes et de femmes qui vivent l'Évangile, non pas seulement quand ils rentrent dans ce lieu, dans ce local, mais tout au long de leur vie, chaque jour, de chaque instant, puisque tu veux être avec nous en tout temps. Merci de nous accompagner toujours par ton esprit qui habite notre cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.